Bonjour, Monseigneur Nicolas.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, dans ce contexte du mois de septembre, de la rentrée, nous allons parler des différents sujets et notamment, on va dire, votre rentrée, notamment au Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Vous êtes allé à Paris, vous avez été nommé donc le 4 avril dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce Conseil permanent?
Oui, alors j'ai pas été nommé, j'ai été élu parce que c'est une élection par province ecclésiastique. Donc en France, il y a 15 provinces avec un archevêque puis des évêques. Toute la conférence élit un évêque par province pour venir au conseil permanent. Je crois que ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, ce que c'est que ce conseil permanent, on est 15, plus l'archevêque de Paris qui est toujours membre de droit. Et parmi ces 15, il y a aussi un président qui est Monseigneur le cardinal Aveline. Et puis il y a deux vice-présidents, l'archevêque de Tours, Monseigneur Jordi, et puis l'évêque de Pontoise, Monseigneur Benoît Bertrand, qui était amende avant. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre le sens de ce conseil permanent parce que, voyez-vous, l'Église de France, elle n'est pas organisée comme une sorte de super diocèse dont le cardinal Aveline serait le patron. Le cardinal Aveline n'est pas mon patron, si je puis dire. Comment est-ce qu'est organisée l'Église? En fait, l'Église, elle est organisée par diocèse et donc il y a un évêque qui est responsable, qui est nommé pour être le pasteur, le bon pasteur à l'image du Christ, et donc à la fois conduire l'Église, mais la conduire, comme on a insisté là ces derniers mois, de manière synodale, c'est-à-dire avec des conseils. C'est pas un évêque qui décide tout seul. Mais lorsqu'il y a un évêque, l'Église est constituée, l'Église est là présente dans sa totalité, et chaque diocèse avance sous la conduite du Saint-Esprit, avec son évêque. Par exemple, un exemple concret, quand on décide de faire une formation comme Fideo, moi, je n'ai pas besoin d'aller demander ni à l'archevêque de Montpellier, ni à Monseigneur Aveline. Alors, on peut parler ensemble, on peut exposer ce qu'on a envie de faire, on peut décider éventuellement de faire ça à deux diocèses, mais si vous voulez, l'évêque, dans son diocèse, il est responsable de la vie de l'Église. Mais il est responsable d'une deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est de la communion avec le reste de l'Église. C'est pour ça qu'il y a un terme qui est fondamental, c'est celui de collège. C'est-à-dire qu'un évêque, il est ordonné pour être responsable d'un diocèse, mais il est aussi intégré au collège des évêques. Et quand un évêque est dans un diocèse, eh bien, il s'occupe évidemment de l'impulsion pastorale donnée au diocèse, mais il a aussi en charge le fait de rester en communion avec les autres évêques. Et c'est ça, c'est la collégialité. C'est une forme qui est très difficile à comprendre, en particulier pour les médias, par exemple, parce que le seul modèle que nous avons en tête, au fond, c'est le modèle hiérarchique avec quelqu'un au-dessus, avec des vice-présidents ou des vice-secrétaires ou des secrétaires généraux. Et puis ensuite, vous voyez, ça redescend un peu comme dans une entreprise, un petit peu comme dans la vie politique aussi. Et donc, il est très compliqué, je vois, peut-être d'ailleurs pour les auditeurs aussi, d'imaginer une structure collégiale dans l'Église qui est une structure au service de la communion avec Dieu. L'Église, elle prend ses racines dans la communion trinitaire, la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et elle est au service de la communion des hommes avec, de toute l'humanité avec Dieu. Et c'est cette communion qui est le point important. Et la collégialité, elle est au service de cette communion. Et j'ajoute que dans l'Église catholique, cette communion dans le collège, cette forme collégiale, elle se fait toujours avec le pape, qui est le signe, on pourrait dire un signe visible, de la communion entre nous. C'est-à-dire, on fait tout cela entre évêques, jamais sans le pape. C'est la particularité de l'Église catholique qui a besoin, justement, du ministère de Pierre, du ministère du Saint-Père, pour ancrer la communion, pour la sauvegarder, pour la protéger. Voilà la structure. Alors, je reviens au Conseil permanent pour dire que le Conseil permanent, il est au service de cette collégialité entre les évêques. Ce n'est pas un conseil qui va décider de ce que va faire Nicolas Brouvet à Nîmes. C'est un conseil qui va aider les évêques à être en communion les uns avec les autres et d'agir collégialement. Voilà. Et donc, tout ce que nous faisons au Conseil permanent, c'est au service de la collégialité des évêques. Évidemment, on prend un risque, parce qu'un évêque pourrait être extrêmement autoritaire et faire les choses dans son coin. Mais en fait, quand un évêque est ordonné, il comprend, enfin, en tout cas, il est censé comprendre qu'il ne pourra pas jamais faire les choses seul, parce que ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est, au fond, c'est de faire la communion entre les diocésains, et puis, mais de la communion de tous les diocésains avec le reste de l'Église. Participer au conseil permanent, ce n'est pas une promotion, c'est servir la collégialité entre les évêques.
Alors, vous avez dit aussi, donc vous avez été élu, hein, vous avez été élu par vos pairs pour représenter la province donc, de Montpellier. Il y a une représentativité aussi de la province. Vous allez parler de la province, vous allez faire des retours ensuite à la province. Comment ça se passe?
Donc, notre province, c'est Montpellier, Mende, avec le nouvel évêque, Mgr Jean Pelletier, qui vient d'être ordonné. Carcassonne avec Mgr Bruno Valentin et puis Perpignan avec Mgr Thierry Scherrer. Notre archevêque, c'est Mgr Norbert Turilli. Là aussi, nous essayons, c'est, si vous voulez, c'est un degré de la collégialité, c'est-à-dire en province, donc on est cinq. Il y a des provinces qui sont un peu plus grosses, comme la province de Lyon, on peut être huit ou neuf. À Toulouse, je crois qu'il y a huit évêques. C'est un stade, si vous voulez, intermédiaire de la collégialité. On travaille ensemble et tous les trimestres, nous passons deux jours ensemble avec nos vicaires généraux, c'est-à-dire nos principaux collaborateurs. Et donc là, on essaye d'abord de se donner des nouvelles. On voit s'il y a des choses qu'on peut porter ensemble. Et puis, on échange sur un certain nombre d'initiatives. Parfois, on prend des initiatives à plusieurs. Voilà, la collégialité, c'est cela. On la vit donc en province. Et comme vous le dites très bien, là, on a voulu que les provinces soient représentées au conseil permanent, ce qui n'était pas le cas avant. Tout simplement, justement, pour que la vie des provinces soit bien, si vous voulez, prise en compte lorsque nous travaillons pour la collégialité et qu'il y ait cette sorte d'aller-retour entre ce qui se passe au conseil permanent et puis la vie des provinces. Et qu'au conseil permanent remontent aussi les questions qui sont posées
locales, par les provinces. Du territoire. Le 8 et le 9 septembre dernier, donc vous étiez à Paris, les rencontres se déroulent à Paris, donc ça vous bloque aussi un peu dans votre agenda, ça vous nécessite aussi d'aller plus souvent cette année à Paris. Quels sont les sujets qui sont abordés? Est-ce que c'est confidentiel? Est-ce qu'il y a des sujets que vous pouvez nous partager aujourd'hui aux auditeurs de Radio Ecclesia?
Oui, alors il y a beaucoup de sujets souvent, parce que évidemment on a tout le spectre des questions qui peuvent se poser à l'Église de France. Il y a les questions, par exemple, je ne sais pas si les auditeurs ont réalisé que Cardinal Aveline, avec Mgr Jordi et Mgr Bertrand, est le secrétaire général de l'Épiscopat. Le secrétaire général, c'est un prêtre qui est à plein temps à Paris.
C'est la mission.
C'est sa mission, bon. Et donc, ils sont allés en Terre Sainte. Visiter en particulier l'église de Terre Sainte, le patriarche de Jérusalem. Ils ont fait des visites, ils ont rencontré aussi des Israéliens. L'idée, c'était de donner ce signe de fraternité et de paix, ce signe de solidarité aussi dans l'épreuve. Et puis aussi, l'idée d'essayer de mieux comprendre. Il y a eu un contact entre justement ces trois évêques et puis le curé de Gaza. Le curé de Gaza, il y a une petite communauté à Gaza. Mmh. Je crois qu'elle fait 1000 chrétiens. Donc, c'est une paroisse. Donc, il y a eu un très bel échange. Je ne sais pas si vous savez que le pape François parlait souvent avec le curé de Gaza. Et donc, ils ont un peu rendu compte de cela. Il y a eu d'autres questions, comme par exemple... des réflexions autour du thème de la laïcité. Nous avons parlé des lois sur la fin de vie, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, donc la question des soins palliatifs, comment est-ce qu'on reprend la question du synode des évêques. Alors, et puis, on a repris aussi, on a une nouvelle déléguée à la protection des mineurs, à la CEF, donc on a rencontré l'enseignement catholique aussi, on a un évêque qui a été nouvellement élu pour s'occuper de l'enseignement catholique. Voilà, donc il y a un certain nombre de sujets pour lesquels on prend du temps, et puis on échange. On prépare aussi l'assemblée plénière à Lourdes, puisqu'il y a une assemblée plénière début novembre. C'est à nous de l'organiser. D'accord. Et de donner les priorités, de nous donner le tempo, de dire les sujets que nous allons traiter, et puis ceux que nous ne pourrons pas traiter. Donc là encore, c'est le service de la collégialité entre les évêques.
D'accord. Alors justement, parmi les sujets de l'assemblée plénière annuelle donc d'automne à Lourdes, qui aura lieu du 4 au 9 novembre, est-ce qu'il y a des thèmes aussi qui ressortent plus fortement? Est-ce que c'est justement la situation à Gaza? Ou la question des abus? Il y a aussi effectivement un conseil pour l'enseignement catholique. Est-ce que vous avez déjà un petit peu aussi des thèmes qui ont été identifiés?
Oui, alors là, on est en train de bâtir cela. C'est sûr qu'on reparlera de la situation à Gaza, en Israël. C'est sûr qu'on reprendra la question du synode, qu'on reprendra... une question aussi qui nous est, vous savez, dont on parle depuis longtemps, la question de la protection des mineurs et la question de la protection des personnes majeures aussi. On fera certainement un point sur les lois de fin de vie. Donc là, c'est encore un peu flou. Rien n'est encore décidé, mais on a, disons, commencé par lister un certain nombre de sujets. Ensuite, il faut les répartir et puis ensuite, il faut qu'on... ça, on en reparlera, si vous voulez bien, au moment de l'Assemblée plénière.
Vous avez parlé de collégialité, vous avez parlé aussi de fraternité. C'est notamment un point que vous avez aussi développé dans votre homélie lors de la marche diocésaine jubilaire du 30 août, qui a été un temps fort pour le diocèse, où nous étions plus de 1000 personnes. C'était un temps fort pour notre diocèse, cette journée un peu de rentrée dans le cadre du jubilé. La fraternité, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors moi, mon chiffre, c'est 800 plutôt que 1000.
Ah oui.
Mais enfin,
peut-être... Mais bon, on n'est pas loin de Marseille, alors c'est pour ça qu'on arrondit à 1000.
Bon, d'accord. En tout cas, c'était une très, très belle journée. Je crois que beaucoup de gens ont apprécié de marcher depuis différents points. On n'a pas marché à 800 ensemble, hein, parce que... il y a eu des marches à partir de différents villages. Puis il y a des gens qui sont venus tout simplement juste pour la messe, parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. Et donc on a eu cette très belle marche jubilaire à Saint-Gilles. Je remercie d'ailleurs les auditeurs de Radio Ecclesia qui soit sont venus, soit ont écouté la retransmission de cette messe. Et c'est vrai que moi, j'ai insisté sur la question de la fraternité. Il faut dire que l'évangile, c'était celui du banquet, hein, où le maître de maison invite, hein, et puis invite à prendre la dernière place, puis à monter plus haut. Et j'ai insisté sur la fraternité parce qu'il me semble que ça peut donner pour cette année un axe pour nos paroisses, mmh, en se disant, mais au fond, qu'est-ce que nous faisons de cette fraternité? Parce que la fraternité, c'est un mot qui est... presque un peu usé, tout le monde parle de fraternité. Il y a une fraternité républicaine, il y a une fraternité sociale. Mais nous avons une fraternité très particulière, nous les chrétiens, parce qu'elle est enracinée dans notre baptême. Nous sommes fils et filles d'un même père. Et c'est ça qui nous rend frères. Ça veut dire qu'au fond, nous ne sommes pas frères et sœurs juste comme ça en humanité, mais il y a un sacrement qui est le baptême, qui enracine notre fraternité au plus profond de nous-mêmes et qui nous rend aussi responsables de cette fraternité. Et donc, comment est-ce qu'on vit la fraternité? Alors, on peut dire, on est fraternel juste parce qu'on a fait une sortie, par exemple, ou qu'on a fait une soirée ou un dîner. Mais je pense que la fraternité, il faut essayer de l'enraciner beaucoup plus profondément et puis, en développer toutes les potentialités. C'est pour ça que j'ai insisté un peu là-dessus.
Alors, quand on pense fraternité, on pense aussi à deux mots qui viennent, c'est la solidarité et la charité. Pour vous, fraternité, c'est vraiment être fils et fille du Père, et finalement la solidarité, la charité, ça en découle. Comment vous...
Oui, c'est-à-dire que ma question, c'est de dire comment est-ce que dans une paroisse, on prend en compte le fait qu'on est donné les uns aux autres comme des frères et des sœurs. Par exemple... Vous pouvez me dire, tiens, j'ai un problème en ce moment et je peux vous dire, très bien, je prierai pour toi, quoi. Mais est-ce que je reviens vers vous pour en parler quelques jours après? Est-ce que je vous demande des nouvelles? Est-ce que je vous dis, est-ce que tu veux qu'à deux ou trois, on prie pour toi parce que ça me semble important? Est-ce que tu veux en parler un peu plus? La fraternité, c'est se rendre compte aussi qu'il y a des gens dans la paroisse ou tout simplement dans la commune qui sont vraiment seuls. Et comment est-ce que je vais les visiter? Comment est-ce qu'à plusieurs, on s'en occupe? Ou bien, comment est-ce qu'on partage sur ce qu'on reçoit de Dieu, des grâces qu'on reçoit? Souvent, on a une sorte de pudeur. On ne veut pas parler de sa vie intérieure. On ne veut pas parler de son rapport avec le Seigneur. Mais moi, je trouverais ça beau de dire... moi j'ai en ce moment j'ai vraiment une joie de louer le Seigneur. En ce moment j'ai vraiment dans le cœur d'être missionnaire et je sais pas trop comment faire. Est-ce qu'on pourrait en parler? Est-ce que vous pourriez m'aider? On a une sorte de pudeur à parler de sa relation avec Dieu. Et je trouve que ça pourrait nous édifier, nous encourager dans la foi, lorsqu'on partage, lorsqu'on est là ensemble. Il y a, à mon avis, des manières de vivre la fraternité. Ce dont j'ai parlé pendant l'homélie, c'est aussi nos charismes. Vous voyez, chacun, nous avons des charismes, c'est-à-dire des dons que le Seigneur nous fait pour édifier toute la communauté. Et comment est-ce qu'on cède On aide chacun à trouver ses propres charismes, qui peuvent être des charismes extraordinaires, mais qui peuvent être des charismes ordinaires, des charismes d'accueil, des charismes d'écoute, des charismes de visite, des charismes de compassion avec les malades. Et pourquoi est-ce qu'on ne céderait pas, vous voyez, à découvrir les richesses que nous avons dans notre cœur, en disant, bah, toi, tu as vraiment ce don là pour nous faire chanter, pour nous faire prier, toi, tu as vraiment le don pour l'accueil. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on peut construire la communauté, parce que chacun découvre ses charismes, grâce aux autres aussi, et les met au service de tous. Je pense qu'on peut aller plus loin que le repas en commun ou que l'apéritif à la fin de la messe, et vraiment entrer dans cette réalité de la fraternité devant le Père. J'ai fait remarquer aussi que, oui, frères et sœurs, ça peut enrichir aussi les relations que nous avons les uns avec les autres. Par exemple, des parents. Ben, ce sont les parents de leurs enfants. Ils sont père et mère, avec toutes les prérogatives d'un père et d'une mère. Mais d'un autre côté, du point de vue du baptême, ils sont aussi frères et sœurs de leurs enfants. C'est-à-dire que devant le Père, ils se tiennent avec leurs enfants pour tenter de comprendre la volonté du Père sur leurs enfants. Donc c'est pas que des parents tout puissants, c'est des parents qui sont aussi au service de la volonté de Dieu, qui est le seul Père, la source de toute paternité, sur leurs enfants. Et donc comment est-ce qu'on se regarde comme ça, comme des frères et sœurs, et qu'on s'accueille comme des frères et sœurs. Voilà la question de la fraternité qui, à mon avis, si elle est bien vécue, elle peut attirer, parce que au fond, il y a beaucoup de solitude dans notre monde aussi. On a un monde qui génère beaucoup de solitude. Parfois, on s'enferme dans cette solitude avec nos petits écrans. Et nous sommes du coup un monde qui est en demande de fraternité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut retrouver des relations profondes entre nous qui ne sont pas simplement sur la surface des choses, mais qui viennent nous chercher dans notre identité chrétienne, dans notre identité profonde de fils et de fille du Père. Et donc... la mission, c'est ça aussi, vous voyez, être témoin de l'Évangile, c'est témoigner d'une forme de fraternité entre nous qui va loin et qui fonde notre communion.
La fraternité, on peut dire à la fois, c'est prendre soin des uns des autres, c'est peut-être identifier aussi les talents, les charismes, hein, vous l'avez dit, de chacun, c'est aussi aidant de dire, tiens, tu as tel charisme, parce que des fois, on ne sait pas les charismes que l'on a, donc oui. C'est vrai que c'est aussi notre responsabilité. Et puis, on peut dire aussi, alors j'avais deux phrases qui me venaient, alors il y a ce chant, peut-être que vous connaissez, « Oh, qu'il est doux de vivre ensemble en frères ».
Oui, et puis, c'est un psaume. Hein.
C'est un psaume, oui. Voilà, j'allais chercher. Et puis aussi, cette phrase, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.
C'est ça, exactement.
Et c'est ça, hein, la fraternité. C'est-à-dire que quand, et je pense à des catéchumènes adultes cette année qui ont donné leur témoignage, il y en avait une qui disait ça, ce qui m'a touchée, en fait, dans la foi catholique, c'est l'amour que j'ai ressenti, cette fraternité, cet amour des uns des autres dans cette paroisse qui m'a accueillie. Et je pense que ça fait partie aussi de l'évangélisation et d'une certaine mission, finalement.
Oui, vous avez tout à fait raison, parce que donc on a des catéchumènes qui viennent, on a des recommençants qui rejoignent nos communautés, et il faut qu'ils trouvent cela, justement, parce que s'ils ne trouvent qu'une sorte d'administration qui remplit les papiers et qui organise des sacrements, c'est important, hein, de célébrer des sacrements, mais si ça devient finalement quelque chose d'assez administratif et qu'on ne sent pas derrière le profond amour, l'amour du Christ pour chacun qui est transmis par la fraternité, on risque de tout simplement fermer les portes de nos communautés à ceux qui veulent la rejoindre. Et donc, ce n'est pas la fraternité... C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que ça n'est pas simplement un apéritif à la fin de la messe, c'est quelque chose qui doit habiter l'âme d'une paroisse, parce que c'est là que nous vivons, hein, notre appel à être fils ou fille du Père dans le baptême.
Pour conclure notre émission, un petit mot en cette reprise, cette rentrée 2025, pour cette année pastorale, une bénédiction. Je ne sais pas ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs de Radio Ecclésia.
Oui, c'est exactement ça. Je demande au Seigneur de bénir d'abord tous les enfants, les jeunes, les étudiants qui sont rentrés en cours, parce que c'est d'abord une rentrée scolaire, mais de bénir aussi toutes les familles qui ont repris le rythme du quotidien, et puis face aux difficultés politiques que nous traversons. Moi, je redis tout simplement que l'espérance qui nous habite, pour laquelle nous fêtons ce jubilé là, cette année, ne nous décourageons pas, relevons nos manches, que chacun donne le meilleur de lui-même là où il est, parce que notre société, c'est pas simplement l'agitation politique à Paris et la vie d'un gouvernement ou même la vie des députés. La vie politique, c'est chacun d'entre nous dans la police, dans la cité, avec tout ce que nous construisons au jour le jour. Et justement, c'est politique aussi d'aller visiter une dame qui est seule, de même que c'est politique de s'occuper de ses enfants et qu'ils aillent bien. Voilà, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de notre société, c'est la vie de nos villages et de nos quartiers. Et donc, chacun d'entre nous, nous sommes des acteurs de la vie politique de ce point de vue-là, et ne baissons jamais les bras, parce que nous avons un avenir. Voilà, nous avons un avenir, et l'avenir, il est porté par notre espérance chrétienne aussi. Voilà, que le Seigneur bénisse tous les auditeurs, en particulier en ce début d'année.
Merci, Monseigneur.